d'horizon avec Jonathan Trudeau.
Il est 8h28, Jonathan Trudeau, chroniqueur politique. Bon matin!
Salut!
Écoute, discours à saveur électoraliste ou non hier, discours du trône du premier ministre. D'abord, t'en as pensé quoi? Ces oppositions, on a l'air de trouver que ça fait électoral pas mal.
Écoute, on va régler cette question-là tout de suite, si tu le veux bien. Les partis d'opposition qui ont tous, un après l'autre, hier, déchiré leur chemise, je me suis tapé leurs différents points de presse, puis là, tous en cœur, ils disaient « Mais c'est épouvantable! C'est un discours à saveur électorale, c'est une manœuvre électoraliste. » Il y a une expression en anglais qui dit « No shit, Sherlock ». Ça veut dire « Ah oui, tu me niaises-tu? Êtes-vous vraiment surpris? »
Vraiment.
C'est sûr que c'est électoraliste. C'est sûr que c'est électoraliste. Je vais même aller plus loin. Oui, vas-y, Martin. Non,
j'allais dire, moi, ça m'a surpris parce que moi, je suis le naïf qui pensait que tout ça allait se faire dans la prochaine année. T'es en train de me dire que tout ce qu'il m'a dit là, ça se fera pas dans la prochaine année, là?
Non, ben en fait, ça, c'est un point qui est intéressant, puis je vais venir dans un instant. Mais ce que je veux dire, là, c'est les politiciens sont des humains. Donc, c'est pas cynique de penser que lorsqu'ils prennent des décisions, ils ont en tête une éventuelle réélection. Un gouvernement qui est élu, c'est sûr qu'il veut être réélu. Il se dit pas, hey, moi, je vais prendre des décisions dans un seul et unique but, ça va être de me faire fourrer une volée à la prochaine élection. Sauf que faut pas avoir ce qu'on appelle une vision manichéenne de ce phénomène-là. Là. C'est-à-dire que c'est pas tout un ou tout l'autre. Le gouvernement se lève pas le matin en se disant, aujourd'hui, est-ce que je vais prendre une décision pour le bien collectif ou je vais la prendre pour être élu? Ben non, il y a toujours un peu des deux. C'est sûr qu'ils se disent qu'ils veulent prendre les meilleures décisions pour avoir l'appui de la population dans une autre élection, mais ils veulent aussi faire les choses correctement. Donc, est-ce que François Legault veut être élu? Oui, mais en même temps, est-ce qu'il croit vraiment que c'est le temps de relancer le Québec, de tourner la page, de passer à autre chose que la pandémie? Je pense que oui. Puis la raison, les gars, pour laquelle je voulais prendre un instant pour faire ce point-là, c'est que, tu sais, qui est le plus électoraliste dans sa façon de faire, là? C'est-tu le gouvernement ou les partis d'opposition? Parce que venez pas me dire que ce n'est pas électoraliste de pas être capable de dire un seul mot positif sur tout ce qui a été annoncé par le gouvernement hier. Les partis d'opposition arrivent devant les caméras et ne font que dire que c'est de la merde. Mais c'est quoi ça si c'est pas une tentative électoraliste de déstabiliser un gouvernement qui trône dans les sondages, un parti qui trône dans les sondages? Donc, les partis d'opposition auraient peut-être intérêt des fois à être plus objectif, à essayer de trouver des points, tu sais, d'être capable de dire ça là-dessus, le gouvernement, c'est pas inintéressant, mais nous, on irait plus loin, puis nous, on ferait mieux. Ben non, c'est juste de déchirer sa chemise puis dire que tout est mauvais. Donc, est-ce que c'est mieux? Je le pense pas.
Mais, tu sais, Jonathan, je fais une parenthèse, l'opposition qui s'oppose à tout vent, là, on est-tu rendu ailleurs en 2021? Moi, je pense que oui, là, je suis un peu d'accord avec toi.
Même phénomène que les syndicats. Ça fait quelques semaines qu'on parle ensemble des vieux réflexes, de la tradition syndicale, de l'opposition systématique. C'est la même chose pour les partis d'opposition. Tu sais, regardez là, les politiciens qui ont pu se démarquer dans les dernières années dans l'opposition. Là, si on a un nom qui nous vient en tête, par exemple, c'est Véronique Yvon. Pourquoi? Ben parce que Véronique Yvon, autant dans le court passage du PQ au gouvernement lorsqu'elle était ministre, que son travail comme député de l'opposition, est capable, oui, de critiquer le gouvernement, oui, d'exiger des comptes, mais de dire, regardez, si vous voulez, sur tel point, on peut s'entendre, on va travailler main dans la main. Et Véronique Yvon, je pense qu'elle est pas mal appréciée dans la population. Je pense, moi, que sans bercer dans un monde d'illusions, là, tu sais qu'à un moment donné, un parti d'opposition a son travail d'opposition à faire, je pense qu'ils auraient avantage des fois à être capables de plus identifier des points où ils s'entendent. Puis oui, parler des points où ils s'entendent pas, mais cette espèce de réflexe systématique-là de dire que tout est noir, je vois pas en quoi ils pensent aller chercher l'appui de la population en faisant ça.
Mais hier, là, sur le discours, tout le monde a parlé de la fin de l'urgence sanitaire. Évidemment, c'est ce qui marque l'imaginaire, alors que ça changera peut-être pas la vie de tout le monde autant qu'il pense. Mais moi, ce qui m'a frappé, je sais pas pour toi, Jonathan, là, mais le plus gros chantier du gouvernement, c'est la décentralisation du système de santé qui a été annoncée. Et j'aurais aimé être un petit oiseau à côté de Gaétan Barrette au moment où il a entendu ça.
Ouais, ben sûrement que lui a dit que ça, ce sera pas bon, parce que lui, tout ce qu'il a fait était sans tâche, hein. Monsieur Barrette, on connaît quand même son égo sympathique personnage, il en est un. Mais tu vois, ça rejoint le commentaire que Martin faisait, là, sur est-ce que le gouvernement fera tout ça en un an? Parce que, c'est bien beau de dire que le gouvernement prépare sa réélection, mais en même temps, on s'entend-tu qu'il vient d'augmenter, les attentes, pas à peu près, là? Il vient d'hausser la barre parce que, Ils ont beau vouloir tracer les contours, si on veut, d'une éventuelle plateforme électorale, il reste qu'il y a toujours bien une année qui nous sépare la prochaine élection. Donc, lorsqu'il va partir en élection, il y aura des comptes à rendre sur ce qu'il vient d'annoncer. Il peut pas juste répéter les mêmes choses dans une année. Là, il faudra nous dire il est rendu où dans ces belles intentions-là qu'il a annoncées. Et pour ce qui est du système de santé, j'ai envie de dire bonne chance, parce que le gouvernement a dit « Ah, vous savez, la pandémie nous a permis de voir certains travers, puis on va s'inspirer de ce qui a bien été pour apporter des changements durables. » Bon, on a vu qu'on était capable de se revirer de bord sur un dizaine avec l'opération de vaccination, le dépistage massif, le passeport vaccinal. Ils veulent se servir de ça pour démontrer qu'ils sont capables d'agir rapidement. D'un autre côté, ils veulent se servir de ce qui a moins bien marché pour corriger les travers du système. C'est bien beau de nous dire que la pandémie va les aider à régler de grands problèmes, mais il y a un fait qui demeure, c'est que ce gouvernement-là avait pris des engagements très, très, très importants, ne serait-ce qu'en matière de santé, là, déjà des engagements qui étaient importants, notamment que tous les Québécois aient accès à un médecin de famille, c'est pas le cas, de réduire les attentes pour les urgences. Au contraire, je pense que ça a augmenté un peu partout. Oui, on peut dire qu'à certains égards, c'est à cause de la pandémie, mais son plan est pas parfait et j'ai hâte de voir comment ils vont réussir en à peine 365 jours à commencer à faire un virage qui va être tangible.
Ouais, c'est parce que si on gère de manière décentralisée, là, tu sais, je veux dire, en pleine pandémie, on aurait-tu été capable? Les PDG qui dépendaient directement du gouvernement, en fait, du ministre de la Santé, ça a permis de faire avancer certaines choses beaucoup plus rapidement. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que là, plus loin dans les régions, le message ne se rendait pas si vite. Alors là, le PDG dépend-tu encore du ministre? Là, c'est-tu le CA qui le nomme? Puis là, si jamais on a une pandémie, mais là, c'est-tu la course à laquelle des régions réagit le plus rapidement et est la meilleure? Tu sais, c'est tout le contraire de ce qu'on a vécu.
Je sais pas, ouais. C'est tellement compliqué. Je sais pas jusqu'à quel point ça peut être souhaitable d'avoir une espèce de, justement, de sentiment de compétition entre une région ou un autre, ou entre un établissement ou un autre carrément, de voir qu'un performe mieux que l'autre parce que il est plus agile, il est plus flexible, prend de meilleures décisions. Mais en même temps, moi, je veux bien croire que, t'sais, l'intention à la base était noble de centraliser puis de pouvoir uniformiser la prise de décision, mais pour avoir été en contact avec des gens du milieu de la santé de très près dans les 18-24 derniers mois, les gens qui géraient la pandémie, t'sais, je fais juste penser au manque d'équipement, là. T'sais, on a l'impression que ça fait longtemps, mais ça a été une problématique épouvantable, là, le manque de disponibilité des masques N95, des employés du système qui étaient pas protégés adéquatement, non pas parce que les normes étaient pas les bonnes, parce que les normes étaient faites en fonction du fait qu'il y avait pas assez d'équipement, donc ils étaient mal protégés, puis bref, ça, je pense, ça a contribué à la crise. Et d'ailleurs, une enquête publique pourrait nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais bref, tout ça pour dire que les gens qui essayaient de gérer ça, le délestage et tout ça, qui attendaient des ordres qui venaient d'en haut parce que tout était centralisé, et le fait de centraliser faisait en sorte que plus t'es loin du terrain, moins t'as une bonne conscience, connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que ça a été épouvantable. Puis, effectivement, de décentraliser, je pense que ça peut être une bonne chose, mais...
Jusqu'à quel point?
Ça se fera pas en trois semaines, là.
Non, c'est ça, là. C'est un gros chantier, puis là, il faut revirer ça de bord. Dis-moi, hier, le gouvernement annonce la fin de l'état d'urgence sanitaire prévisible, dans un avenir prévisible. Moi, hier, ce que bien des gens ont entendu, c'est la fin de la pandémie, là.
Et c'est ça, il y a comme un couteau à deux tranchants là-dedans, parce que le gouvernement, je pense, veut marquer l'imaginaire, parce que l'urgence sanitaire est comme, tu sais, une illustration très forte de ce qu'était cette crise-là. C'est-à-dire que le gouvernement prend des moyens exceptionnels, se donne de la latitude pour prendre des décisions, pour imposer des décisions, donner des contrats sans appel d'offres et tout ça. Donc, bref, il y a une charge très, très lourde à ce concept-là d'urgence sanitaire. Donc, le fait de dire, on pense dans les prochaines semaines, prochains mois, capable de mettre fin à l'urgence sanitaire lorsqu'on aura procédé à la vaccination des 5 à 11 ans, je trouve qu'au niveau de la symbolique, il y a quelque chose d'intéressant, parce que le gouvernement, dans son discours hier, voulait nous dire qu'on se dirigeait vers l'après-pandémie, donc le post-pandémie. Fait que je me dis, ah, en ce sens-là, tu sais, c'est intéressant. En même temps, lorsque le premier ministre a dit ça, nous, on était en onde au 93 à Québec, Jérôme Landry et moi, puis on a dit, ah, tu sais, bonne nouvelle, le gouvernement télégraphie, si on veut, la fin de l'urgence sanitaire. Puis là, j'ai tout de suite vu une espèce de ressac auprès des auditeurs qui disaient, bon, ça va être quoi le seuil, là? Ça va-tu être 50 % des 5 à 11 ans avant qu'il lève l'urgence? Ça va-tu être 75? Ça va-tu être 80? Ça va-tu être 90? Là, je me rends compte que les gens, avec raison, sont un peu tannés de se faire manipuler, là. Tu sais, la carotte, là, on brandit la carotte au bout du nez, là, puis là, si vos enfants se font vacciner, là, on va lever l'urgence sanitaire. Je pense que le gouvernement doit faire attention avec ça parce que, oui, ils ont utilisé cette stratégie-là, mais là, tu sais, la situation va mieux et sous contrôle, et je pense qu'ils devront être très prudents. J'ai essayé de m'informer hier dans l'entourage, entre autres, du premier ministre, puis on me disait que pour l'instant, il n'y a pas de seuil qui a été fixé. Là. Si les gens se posent la question, là, est-ce que ça va être 50, 60, 70, 80 %, ils attendent des directives de la santé publique, mais j'ai senti qu'il y avait cette sensibilité-là, là, qui se disent que, ouais, là... Est-ce que c'est nécessaire de mettre un plancher, si on veut, là, de pourcentage de jeunes de 5 à 11 ans vaccinés, où on va juste dire, ben, on commence la vaccination, puis dans un mois, on considère qu'on va être rendu assez loin pour lever l'urgence sanitaire. Je pense qu'il va être temps qu'on lève ça, ce mécanisme-là. Là. Je pense qu'on est rendu à passer à autre chose.
Exact, mais il faut rappeler aux gens que votre masque lève pas en même temps. Tu sais, c'est dans notre vie de tous les jours, ça changera pas grand-chose, à part que si on veut mettre un confinement, ça va être plus compliqué.
Oui, puis d'imposer aussi des horaires de travail dans le système de santé, puis les contrats sans appel d'offres. Là, ça, oui. Entre autres, le Parti québécois qui a la fâcheuse habitude de pas fesser ses bons clous, je trouve, ces temps-ci, mais celui-là est un clou qui est pas inintéressant. Là, t'sais, l'expérience nous a démontré que plus tu as de latitude dans l'octroi de tes contrats, plus il y a des chances que finalement, je vais le dire de façon bien, bien franche, plus il y a des chances que tu te fasses fourrer en bout de ligne.
Exact.
Et que tu payes trop cher, puis qu'il y a des gens qui abusent. Donc oui, c'était nécessaire. Puis il fallait accepter qu'il y en a peut-être qui pèseraient fort sur le crayon pendant les premiers mois, mais là, il serait peut-être temps qu'on revienne avec une certaine rigueur. Là.
Mais l'autre problème, Jonathan, quand tu veux être sûr de ne pas te faire avoir dans la vie, tu fais affaire avec qui? Tu sais, je veux dire, t'as le choix, là. T'as le choix, puis il faut que tu donnes un contrat rapidement, puis t'as pas de permission à donner, puis tu vas être sûr de ne pas te faire avoir. Tu fais affaire,
exact.
Tu fais affaire avec tes chums. Je veux dire, c'est comme
ouais,
ça.
Ouais.
Tu sais, ben, c'est un réflexe humain, tu vas aller vers des gens que tu connais.
Des gens que tu connais, ouais. Mais ne serait-ce que pour des questions d'apparence, justement, parce que, tu sais, loin de moi l'idée de penser qu'au ministère de la Santé, ils donnaient des contrats à leurs chummies pour leur faire plaisir. Là, il y avait vraiment urgence, puis il fallait être plus agile, sauf que là, justement, si on veut éviter ces apparences-là de conflits ou de mauvaise gestion des deniers publics, il est temps de passer à autre chose.
Hey, bien rapidement, Trudeau, là, c'est bien long.
C'est hein?
Écoute, là, on siège pas, il se passe à rien.
C'est ridicule. Puis il faut que les gens comprennent que lorsqu'un gouvernement télégraphie son intention de partir en élection, lorsque ça devient inévitable, la machine stall. Il se passe plus rien. Là. T'sais, c'est comme là, quand je parle de la machine, je parle des ministères au gouvernement, parce que le ministre qui est en place, son cabinet n'ont plus vraiment d'autorité, puis il y a comme une espèce de période de latence où il se passe plus rien. Donc, souvenons-nous combien de temps avant le déclenchement des élections, c'est devenu évident qu'il y aurait une élection. Un bon mois et demi, si c'est pas deux, avant, là. T'sais, avant même la période estivale. Donc, déjà, on peut anticiper qu'il y avait eu un ralentissement au gouvernement. Il se passait plus grand-chose. Là, tu as la période électorale, où évidemment, il se passe encore moins de choses. Là, il se passe plus rien des ministères, puis personne n'ose prendre de décision. Et lorsque, pardon, on est en attente de la formation du Conseil des ministres, c'est la même chose. Donc, prenons ça bout à bout. Ça fait quoi de 3 à 4 mois que le gouvernement fédéral est sa petite vitesse, là? Tu sais, comme nous autres, quand on est en lendemain de brosse, puis t'as l'impression que tu n'accompliras rien dans ta journée, là, ce que j'appelle la petite vitesse, là. Mais le gouvernement fédéral est sa petite vitesse depuis au moins 4 mois, si c'est pas plus. Or, Justin Trudeau a justifié le déclenchement d'une élection parce que c'était bien, bien, bien pressant de se mettre en mode post-pandémie, puis de prendre des décisions, puis de compléter la gestion de cette crise-là. Puis le message, dans le fond, qu'il nous envoie, c'est qu'il n'y a pas de stress. Ça fait 5 mois que mon gouvernement fait rien, que la machine gouvernementale fait à peu près rien. Et ça, c'est sans compter que ce gouvernement-là est reconnu pour être très, très lent une fois la formation du Conseil des ministres annoncée pour former les cabinets. Tu sais, les chefs de cabinet, les attachés politiques, les attachés de presse. Là, il y a tout un rebrassage qui va se faire, là. Et je me souviens que lors la dernière élection, ça avait pris, attachez votre truc, presque 3 mois avant que les gens des cabinets soient fixés à savoir dans quel cabinet ils allaient, s'ils gardaient leur job, s'ils suivaient leur ministre, s'ils allaient ailleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Encore une fois, pas grand-chose. Oui. Donc, c'est un peu ridicule à quel point le gouvernement fédéral est presque à l'arrêt depuis 4-5 mois, puis que c'est pas à veille de repartir en grande vitesse.
Non, ça démontre une chose, là. Le fédéral peut arrêter de rouler, puis c'est long avant qu'on s'en rende compte dans notre vie quotidienne. Alors que si la ville stalle pendant 3 mois, puis dire une affaire, il y a du monde qui va crier tantôt.
C'est Jean Lapierre. hier qui disait, je pense, que le gouvernement fédéral pouvait fermer la Chambre des communes. Ça prendrait 3 mois avant que les gens s'en rendent compte. Si l'Assemblée nationale à Québec ferme, ça va peut-être prendre 2 semaines. Mais si la ville ferme,
le lendemain,
en prendre une couple d'heures et le chiard est pogné. Là.
Absolument. Jonathan, merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
Salut, à la semaine prochaine. Jonathan Trudeau, chroniqueur politique, 8h43.
Le show du matin. Pour nous joindre, via messagerie texte et téléphone, 543-51-31. Kick 95-7, Saguenay.